Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Justice transitionnelle en RDC. Le magazine de promotion de vos droits et devoirs s'intéresse aujourd'hui à l'opportunité d'avoir une justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Que signifie justice transitionnelle? Qu'est-ce que son instauration en RDC implique? Avec quel fonctionnement et pour résoudre quel problème? Voilà qui fonde la problématique de ce magazine. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous. Justice transitionnelle en RDC. Tour à tour, nous allons écouter Maître Edmond Bokoko et André Kabamba, respectivement professeurs à la faculté de droit de l'université de Mbandaka et avocat au barreau de Lubumbashi.
La justice transitionnelle désigne un ensemble de mesures judiciaires et non judiciaires permettant de remédier au lourd héritage des abus des droits humains dans les sociétés qui sortent d'un conflit armée ou d'un régime autoritaire. Dans son principe, elle tend à promouvoir la justice, la reconnaissance des victimes et la commémoration des violations passées ou multiples par rapport aux exactions qui ont été commises par certaines personnes, certains belligérants, certains politiciens, et la justice transitionnelle vise premièrement une politique de justice, une politique qui tend à rétablir l'état des droits et de mettre fin à la culture de l'impunité dans un contexte de gouvernance démocratique. Et cette justice transitionnelle, pour ce qui concerne notre pays, je pense que c'est opportun que la justice transitionnelle soit mise sur pied, parce que cela ressort même de différentes recommandations. Nous avons plusieurs rapports qui incitent la mise sur pied de la justice transitionnelle. Il y a même notre prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui lutte également pour la mise en place de cette justice transitionnelle. Et puis, c'est opportun que les personnes qui ont commis des exactions dans ces pays, les personnes qui ont commis de graves violations des droits humains soient également punies. Parce qu'en fait, la justice transitionnelle tend à la recherche de la vérité et l'établissement et la reconnaissance de la vérité sur les violations commises par les belligérants, par les personnes qui ont œuvré au sein des forces et groupes armés. Et puis, la justice transitionnelle vise certainement l'indemnisation, la réparation de différents préjudices subis. Donc, les personnes qui sont victimes de graves violations également doivent bénéficier de la réparation. Moi, je pense qu'en ce qui me concerne, en tout cas, il faut une justice transitionnelle dans ce pays, afin que toutes les personnes qui ont été citées dans les différents rapports où il y a eu violation massive des droits de l'homme entre 1998, 2002 jusqu'en 2010, que ces personnes soient punies. Ici, il faut le souligner que nous ne pouvons réussir avec la mise sur pied d'une justice transitionnelle dans ces pays lorsque nous aurons profondément à réformer la justice, donc la réforme judiciaire. Soit nous devons réformer les institutions judiciaires qui existent à l'interne, soit il nous faut, comme nombreux le pensent, il nous faut la mise sur pied d'un tribunal pénal international dans ces pays, comme a été le cas à Arusha, comme a été le cas au Rwanda, afin que les personnes qui sont auteurs, bourreaux de violations graves des droits de l'homme soient également punis, afin de restaurer cet esprit d'impunité et enfin d'asseoir véritablement un état des droits.
Pour ne pas entrer dans les polémiques doctrinales, la justice transitionnelle peut être considérée comme un ensemble de mesures judiciaires et non judiciaires, bien sûr, permettant de remédier au lourd héritage des abus des droits humains dans des sociétés sortant des conflits armés. Quand de notre pays, est-ce qu'il faut nécessairement que nous puissions penser à organiser la justice transitionnelle dans notre pays? Bon, la réponse serait pour moi un peu ambiguë, dans le sens que pour qu'on arrive à organiser la justice internationale dans un pays, il faut aussi tenir compte de la justice nationale, de la justice qui est bien sûr l'un des éléments fondamentaux de l'indépendance d'un pays, de la souveraineté d'un pays. Alors, Est-ce que notre justice a failli? La justice congolaise a failli? Nos magistrats ont failli? Les avocats ont failli? C'est ça un peu le problème. C'est un peu le problème. Nous avons des bons magistrats bien formés. Nous avons des bons avocats. La justice fonctionne bien, mais il y a bien sûr certains éléments, certains messieurs, certains individus qui sont bien sûr corrompus. Et à cause de cela, on ne peut pas balayer toute notre justice pour demander à la Nations Unies de venir installer la justice traditionnelle dans notre pays. Alors moi, je suis de ceux-là qui pensent que c'est vraiment inutile, inopportun d'organiser la justice internationale dans notre pays.
Est-ce que la justice traditionnelle relève de la compétence de la communauté internationale ou bien de la compétence nationale?
Oui, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu viennent de la justice internationale. Cas des tribunaux internationaux pour les Rwanda, vous avez vu, cela a été organisé en Tanzanie, bon, vous voyez un peu. Donc comme nous, dans notre pays, plus de 60 ans après l'indépendance, on peut aller par exemple en Ouganda, par exemple en Angola ou au Congo-Brazzaville pour organiser une justice qui va commencer à juger les Congolais pour les abus commis au Congo. Vous voyez un peu, c'est la honte du pays. C'est la honte du pays. Moi, j'estime que c'est à notre justice de travailler, de relever les défis pour démontrer comment est-ce qu'ils sont capables afin de relever les défis.
Mais maître, là, vous parlez des tribunaux ad hoc.
Deux fois, le principe, c'est un peu confondu. Le principe de base, c'est un peu confondu. Mais au fond, il y a la différence. Parce que le principe même qui régit la justice traditionnelle, je peux vous donner trois ou quatre principes. C'est pour mettre fin, premièrement, mettre fin à la culture de l'impunité, et puis stopper la violation des droits de l'homme, enquêter sur les crimes commis dans les pays, faire sanctionner les responsables de ces faits infractionnels, apporter la réparation. Voyez un peu, est-ce que notre justice ne pourra pas faire ça? Je pense que notre justice est capable de faire le travail. Notre justice, jusqu'à ce jour, d'après mon point de vue, n'a pas encore failli.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30. Le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
Pour approfondir les notions de la justice transitionnelle, ses préalables, son opportunité, nous recevons à présent le professeur Luzo Lobambi.
Professeur, qu'est-ce qu'on entend par justice transitionnelle? On en parle toujours.
La justice transitionnelle est l'ensemble des mesures qui peuvent être prises par un État qui a été brisé par les troubles, la guerre, notamment, les déchirements. Et pour reprendre la vie, pour recommencer, il faut une justice dite transitionnelle. Ce n'est pas une justice de transition. Bien que l'on peut comprendre dans le terme transitionnel, c'est le passage entre un choc passé et la gestion de la souffrance actuelle pour un avenir meilleur. En un mot, la justice transitionnelle est une justice de résilience. De résilience entre un choc passé, comment gérer le présent pour construire l'avenir. Et cette forme de justice-là, elle se manifeste de plusieurs manières. Et selon qu'un État veut qu'elle prenne une ou deux mesures seulement, comme mesure de justice transitionnelle, elle le fera. Un autre État peut prendre beaucoup plus de mesures. Mieux, en théorie, on dit, la justice transitionnelle peut avoir une approche sélective ou bien elle peut avoir une approche holistique, c'est-à-dire globale. Approche sélective ou approche globale, c'est quoi finalement? Les grands principes, les piliers d'une justice transitionnelle, c'est d'abord les poursuites judiciaires. Poursuivre les auteurs des grands crimes perpétrés pendant la période considérée. Poursuite nationale, juridiction nationale, poursuite juridiction internationale. Mais il ne suffit pas de poursuivre les gens. Il faut que les victimes reçoivent réparation. La deuxième forme, le deuxième pilier, c'est la réparation. Réparation du préjudice causé aux victimes et subi donc par les victimes. Le troisième pilier, c'est, ça dépend, le pardon. Le pardon se manifeste généralement par les lois d'amnistie. L'octroi des lois d'amnistie pour une réconciliation nationale. Après, le quatrième pilier, c'est la vérité. Ça signifie que les gens qui ont été victimes ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le préjudice qu'ils ont subi leur est arrivé. C'est la vérité. Et après, il y a la réconciliation. Donc, c'est l'équation justice transitionnelle. Donc, la paix, c'est l'objectif final de la justice transitionnelle. La paix égale la justice, donc les poursuites, les réparations, le pardon et la vérité. Mais après, on parle, c'est le tout dernier pilier des réformes qui sont nécessaires comme garantie de non-répétition. Ça signifie qu'il faut s'assurer que lorsqu'on applique un programme de justice transitionnelle, que ce qui s'est passé ne se répétera plus. Donc ça, c'est le principe des cinq piliers fondamentaux d'une justice transitionnelle. Maintenant, chaque État, après avoir connu un choc terrible de l'histoire, peut choisir parmi les cinq lequel pilier prendre. Généralement, beaucoup d'États recourent au pilier pardon. C'est pourquoi il y a beaucoup de lois d'amnistie souvent. On se limite à l'amnistie, point. On a appliqué une justice transitionnelle, mais dite sélective, pas holistique. Et ça marche ou ça marche pas selon les sociétés. Dans le cas de la République démocratique du Congo, on a aussi recouru à certaines formes de justice transitionnelle sans le dire. Quand on voit le nombre de lois d'amnistie après les différents troubles qu'on a connus au pays, le nombre de lois d'amnistie qu'on a prises, on peut considérer que c'était des formes de justice transitionnelle, mais sélectives. Ça n'a pas marché malheureusement, parce que pour que ça marche, il faut une approche holistique, une approche globale de justice transitionnelle, et cette approche-là n'a jamais été prise en compte par la République démocratique du Congo. Mais là, par rapport à l'opportunité...
Quelle est l'opportunité de cette justice transitionnelle dans notre pays? Nous avons les piliers que vous venez d'énumérer là ne sont pas réalisés par nos cours et tribunaux actuellement.
Non, les cours et tribunaux ne répondent qu'à un seul pilier, un seul, justice, des poursuites judiciaires. C'est le premier pilier d'ailleurs, poursuites judiciaires nationales ou internationales.
La justice rôle de concilier les gens. Il y a aussi la conciliation, le rôle que doit jouer la justice.
La justice réconciliatrice est une forme de justice qui existe, c'est vrai. Mais dans le système de réconciliation, si la justice tient des procédures, il faudrait mettre en place des dispositifs non seulement judiciaires, ça signifie la justice, mais aussi des dispositions extrajudiciaires. Par exemple, beaucoup de pays ont recouru à des commissions vérité et réconciliation. Ce ne sont pas des instances judiciaires. C'est une forme de justice extrajudiciaire. Ce sont des commissions dans lesquelles les victimes et les bourreaux se rencontrent, se parlent, les victimes pardonnent. Et donc, c'est un volet. Au Congo, on a essayé en 2003-2006. Ça n'a pas marché pour des raisons politiques, pour des raisons... Vous posez la question d'opportunité. C'était peut-être pas opportun. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui? La décision d'opportunité de recourir à la justice transitionnelle est une décision éminemment politique qui revient aux décideurs politiques de prendre. Ce n'est pas une décision qu'un expert que je suis peut orienter. C'est le décideur politique au regard des objectifs et des contraintes de paix et de justice, il va voir, les décideurs politiques voient l'intérêt de justice par rapport à la paix. C'est sur base de tout cela que la décision d'opportunité de mettre en place une justice transitionnelle est gérée par le politique. Mais là, par rapport au cas présent, le tableau c'est quoi? Le tableau c'est 1993-2003. Vous avez le rapport Mapping. C'est même 98, le rapport Mapping. Ce rapport-là a constaté beaucoup de cas documentés. Mais nous disons que nous avons connu 6 millions de morts. Mais de 2003 jusqu'en 2021, ça fait 18 ans. Les crimes ont continué à se perpétrer. Parfois même avec une recrudescence particulière. C'est ce qui sûrement a amené le gouvernement, sous la houlette du président de la République, de décréter l'état de siège. Justement, vous me posez la question, pourquoi l'état de siège? Moi, je ne regarde pas le problème sous l'angle de politique politicienne. C'est là que je dis que l'état de siège est une réponse à la lutte contre la corruption.
Pourquoi?
Comment justement? Parce que avant l'état des sièges, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les violations des droits humains. Avant l'état des sièges, c'est le pillage systématique des ressources. C'est toutes les pratiques de corruption entre les nationaux, voire même avec l'implication des multinationales. C'est tous ces rapports que nous connaissons, les rapports du panel, et sur les violations des droits de l'homme, je ne sais pas si on en dit 6 millions de morts. 6 millions de morts, c'était jusqu'en 2003. Mais depuis 2003 jusqu'en 2021, depuis 18 ans, est-ce que la comptabilité, quoique macabre, a été opérée? Donc l'état des sièges, c'est une façon pour l'État de dire, écoutez, on arrête l'hémorragie. Point. En arrêtant l'hémorragie, on arrête la corruption. La corruption, dans son sens classique du terme. Une corruption, c'est une destruction. Corrompre, c'est détruire. On arrête le... Je dirais, par rapport aux actes de prévarication, le fait de décréter l'état de siège, on considère que la présence de l'État, renforcée par l'armée, stoppe la perpétration d'une série d'infractions, qu'il s'agisse des violations des droits de l'homme, mais surtout les infractions de prévarication, les pillages des ressources, c'est ce que nous appelons le mining terrorisme. On parle du terrorisme, ADF, tout ça. Mais nous, dans le concept criminologique du droit pénal et des sciences criminelles, c'est du mining terrorisme. C'est le terrorisme dans le secteur minier. Donc, l'état de siège est une réponse contre la corruption. Maintenant, votre question, c'est... On veut arrêter l'état de siège.
C'est ça. Puisque d'autres pensent que cet état de siège porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Ça ne rime pas avec les droits de l'homme.
Je n'entre pas dans le débat de restriction des libertés. Parce que l'état de siège ne viole pas les droits de l'homme, mais restreint l'exercice de ces droits. C'est une restriction des libertés. Et non une suppression des libertés. C'est une restriction des libertés. C'est cela l'état de siège. Lorsque les libertés sont restreintes, ça gêne. C'est normal. C'est un état purement exceptionnel. Mais dans le contenu par rapport à l'état de droit, par rapport aux libertés, mais surtout par rapport au pillage des ressources, je dis, c'est une réponse efficace contre la lutte contre la corruption. Mais non, si on n'en veut plus, il appartient aux décideurs de prendre la décision. Mais
là, on aboutit à l'instauration de la justice transitionnelle.
Voilà, je dis.
Mais comment va-t-elle fonctionner, cette justice?
Dali, la suppression, si on quitte l'état de siège et qu'on veut rester dans le schéma de l'état de droit, on doit le convertir par la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Ça signifie, si on arrête l'état de siège de la manière dont il se passe, ça suppose qu'on met en place un système de justice où les poursuites judiciaires vont être nationales. Et international aussi, avec la Cour pénale internationale, on met en place les mécanismes de réparation, on met en place une commission vérité et réconciliation, et on met en place des garanties de répétition. Mais non, politiquement parlant, qu'est-ce qui peut paraître dans le cadre du concours à la paix? Ça, c'est le décideur qui décide. Est-ce qu'entre l'état des sièges et le recours aux mécanismes de justice transitionnelle, qu'est-ce qui paraît plus adapté pour concrétiser la paix recherché par la personne. Il appartient aux décideurs, il appartient au président de la République et aux institutions et au gouvernement de prendre cette décision. Mais ce que moi je veux relever simplement, c'est que l'état des sièges est une mesure positive par rapport à la lutte contre la corruption. Le stopper, c'est possible. Mais si on le stoppe, pour rester dans l'état de droit, il faudra entrer dans le programme de justice transitionnelle. Ça signifie qu'il faut qu'on soit en ordre de bataille pour organiser les poursuites judiciaires, qu'on soit en ordre de bataille pour mettre en place un fonds véritable d'indemnisation, il faut qu'on soit à même de promouvoir les garanties de bonnes répétitions. Est-ce que cela sera possible? Est-ce que cela est opportun? On sait qu'on a la direction du pays général sur le plan politique a quand même été distante par rapport à la guerre, par rapport à tout ce qui s'est passé à l'est du pays. Le président de la République n'a pas été impliqué. La plupart aussi, dans ce système, n'ont pas été impliqués. L'opportunité, ce serait d'avoir des personnes qui ont une certaine distance par rapport à tout ce qui s'est passé, qui n'ont pas un parti pris par rapport à tout ce qui s'est passé, qui ont une certaine distance par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais ce sera pour amener quoi? Je dis, l'impératif, c'est la paix. Il appartient aux dirigeants de mesurer par rapport aux moyens, tant juridiques, politiques, sociaux dont ils disposent, si c'est le moment de mettre en place la justice transitionnelle ou le postposer par un temps beaucoup plus indiqué. Ça, c'est la décision politique à prendre. Mais les instruments pour l'exploitation de cette politique-là et celle-là. Je pense que par rapport à l'opportunité, vous qui me parlez, tout Congolais est à même de pouvoir évaluer l'opportunité de ces mesures. Mais mon intervention consiste surtout à, comme j'entends trop par rapport à ça, les gens ne voient pas le dégât qui est causé à l'Est par les groupes armés et leurs complices. Les gens ne mesurent pas ces dégâts-là. C'est pourquoi je dis, pour résoudre cette question-là, au stade d'aujourd'hui, l'état de siège est une réponse appropriée et juste. Ne pas l'appliquer, c'est recourir à la justice transitionnelle. C'est à choisir entre les deux, mais la décision ne me revient pas.
Je ne reviens aux décideurs politiques.
Et justement, un des décideurs politiques et membres du gouvernement, c'est le ministre des Droits humains, à l'occasion d'un atelier de renforcement des capacités sous la justice, Fabrice Puella, explique ici l'engagement de son gouvernement pour la restauration de cette justice.
Sous peu, nous aurons besoin de toutes les intelligences et de toutes les énergies positives pour doter la République démocratique du Congo de sa justice transitionnelle. La République démocratique du Congo n'a pas d'autre choix. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers participants, la RDC, disions-nous, n'a pas d'autre choix que d'emprunter les sentiers de la recherche de la vérité, de lutter contre l'impunité pour les crimes les plus graves, de répondre aux préoccupations des victimes en termes de réparation et de mettre tout en œuvre pour la non-résurgence des violences. En cela, je voudrais humblement réitérer et appuyer les souhaits du chef de l'État de bénéficier de l'appui habituel de l'ensemble du système des Nations Unies et de la MONUSCO en particulier. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais traduire tous nos remerciements pour votre appui dont nous n'avons cessé de bénéficier. S'il est vrai qu'il est dans la nature humaine d'avoir des conflits, il y a aussi un temps pour marquer un arrêt pour tirer un trait sur le passé et d'aller de l'avant en modélant les fondements de notre pacte social vers des paradigmes de paix, de vivre ensemble, de cohésion et d'unité nationale. À vous, chers compatriotes, acteurs de la société civile, la nation tout entière, ainsi que le gouvernement de la République, compte sur votre travail, votre expérience, pour qu'ensemble nous parvenions à la paix durable. Le temps est donc venu pour nous, les ministères des droits humains, sous l'impulsion du chef de l'État, de rendre public les quatre actions prioritaires qui seront menées en vue de la mise en place en République démocratique du Congo du processus de justice transitionnelle, à savoir, primo, porter le message de l'engagement du président de la République et du gouvernement à œuvrer à la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Secondo, faire un état des lieux des initiatives existantes en matière de justice transitionnelle, BCNIDH, PNUD, TIA et les ONG, en vue d'en capitaliser les acquis pour le processus au niveau national. Tertio, engager les consultations avec toutes les parties prenantes intéressées par la justice transitionnelle en vue d'en tirer une cartographie par domaine d'activité et par espace d'intervention. Quarto, enfin, favoriser la mise en place d'un cadre de concertation entre le gouvernement, les partenaires techniques et la société civile, cadre de réflexion sur les options idoines de justice transitionnelle pour la République démocratique du Congo. Le ministère des Droits humains demeure ouvert à toute initiative et suggestions permettant de faire avancer le processus de mise en place de la justice transitionnelle.
Justice transitionnelle, un impératif pour la paix, selon Madame Erika du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a organisé l'atelier de renforcement des capacités.
C'est vraiment le moment pour la justice transitionnelle en RDC. On a eu déjà les engagements du gouvernement, du président, du ministre. Et pour les BCNDH, c'est vraiment d'une importance critique d'impliquer la société civile. Alors c'est pour ça qu'on a organisé ce premier atelier pour le renforcement des capacités.
Grande interview. L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Droit et citoyenneté.
Droit et citoyenneté se poursuit. Nous reprenons le professeur Luzolo Bambi avec qui nous allons conclure ce magazine sur la justice transitionnelle, les sanctions qui en découlent. Peut-on abolir la peine de mort dans le cadre d'une justice de pardon?
Puisqu'on est dans le secteur pénal, les infractions, les atteintes aux biens, les ressources, les pillages des ressources nationales, les atteintes à l'intégrité physique, les violations massives des droits de l'homme, les assassinats, les tueries, les viols, tout ceci, c'est le premier volet, c'est le volet clé, c'est la sanction. C'est dans ce sens-là que je dis que même la lutte contre la corruption...
Si on doit se pardonner,
si on doit se pardonner,
si on doit se pardonner, se réconcilier, pourquoi envoyer encore les gens en prison?
S'il faut
on s'est dit des vérités, on se pardonne, réconciliation,
justement,
on se serre la main,
c'est la politique.
On scelle la paix des bras.
Je suis totalement d'accord. C'est la politique mise en place par le gouvernement qui va identifier les infractions pour lesquelles il y aura nécessairement poursuite et qui va identifier les infractions qui pourront donner lieu à une sorte d'excuse absolutoire qui n'est dépendant que du pardon, de la dialectique du pardon et de la vérité, de la rencontre entre le bourreau et la victime, et toute la société aura pardonné. Mais cela n'exclut pas les poursuites. Regardez par exemple les poursuites judiciaires. Est-ce que vous savez qu'il y a des crimes internationaux qui sont impardonnables, qui sont non admissibles? Il y a des crimes internationaux qui sont imprescriptibles. La décision de maintenir ou d'abolir la peine de mort n'a rien à voir avec la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ce qui l'importe à elle, c'est que la sanction pénale soit réelle, que ce soit vrai. Qu'il s'agisse de l'emprisonnement, de l'amende, s'agissant par exemple des crimes de prévarication, des mesures complémentaires pour les cas de pillage, de vol, de détournement, le recouvrement des avoirs, la récupération de l'argent volé pour que cela entre dans la caisse de l'État, ça aide la population à pouvoir non seulement obtenir une réparation, mais à pouvoir recevoir de l'argent. Bref, renforcer le budget de l'État par l'argent récupéré dans le cadre de la lutte contre la corruption, version justice transitionnelle, ça c'est possible. Mais là, par rapport à la peine de mort, je pense que j'ai toujours demandé qu'on fasse attention. Et c'est un débat qui peut être référendaire, c'est un débat qui est éminemment politique. Et mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de noter que les sanctions que promeut la justice transitionnelle peuvent en elles reprendre la peine de mort ou exclure la peine de mort selon la décision de la politique judiciaire qui sera retenue par le gouvernement.
L'opportunité d'une justice transitionnelle en RDC, droit et citoyenneté vous a entretenu sur ces concepts. Ce magazine est à présent terminé. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et de rester toujours branchés sous la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.